Jean Lebrun, les relations franco-britanniques sur la mer dans le vif de l'histoire aujourd'hui. Le débat sur les droits de pêche n'est pas toujours clos. On se donne 48 heures de répit. Dans cette affaire, on ne peut pas oublier les représentations que les deux pays ont de leur espace maritime.
La ministre de la mer, Annick Girardin, elle est née à Saint-Malo. Elle va sur les remparts de Saint-Malo. Une grande statue du corsaire Surcouf le figurait commandant l'assaut, le bras levé en direction des îles anglo-normandes, avec leurs pêcheries, et de l'Angleterre, l'ennemi héréditaire. Et l'axe de la statue n'a été déplacé qu'après la Seconde Guerre. Depuis au moins le XVIIe siècle, l'Angleterre est vue en France comme le pays qui ne tolère pas que nous soyons aussi une puissance maritime, comme si on n'avait pas de côte, comme si on n'avait pas de port, comme si on n'avait pas de colonies autrefois. Et dès le XVIIIe, la France a réagi en se présentant non seulement comme un pays qui protège ses intérêts, mais comme celui qui défendait auprès des Espagnols et des Hollandais, notamment, une liberté des mers mise à mal par la pieuvre britannique. Consciemment ou non, le président de la République reprend cette posture quand il dit « En matière de pêche, je suis le porte-parole non seulement de la France, mais de l'Europe. »
Oui, mais la vérité oblige à dire que depuis le XVIIe, la marine anglaise surclasse la française.
Oui, mais enfin, Monsieur Duvic, avec un moment d'exception, autour de 1680, quand la nôtre devient, pour une courte période, la première du monde, et avec des moments de rattrapage. Louis XVI, très jeune, décide de reconnaître l'indépendance des États-Unis. Il en assume les conséquences, la guerre qui va suivre avec Londres, et au risque d'un grave déficit, il quadruple le budget de la marine entre 1774 et 1778 et autres périodes de rattrapage, même quadruplement sous le consulat de Bonaparte, 1800-1804. C'est vrai, l'avantage reste à l'Angleterre, la révolution industrielle dans la métallurgie n'y est pas pour rien. Les canons anglais, cette doublure de coque en cuivre, eh ben c'est incomparable.
Cela dit, les annales de la marine nationale conservent aussi le souvenir de bien des exploits.
Eh ben vous considérez l'odonymie, vous savez les noms de rues,
ah oui,
et d'avenues à
oui.
Paris. Oui. Suffren. En dépit de son caractère épouvantable, il a recueilli l'hommage des Anglais eux-mêmes pour son parcours dans leur possession des Indes. L'amiral de Grasse, il mérite sa place dans le 16e arrondissement. Sa campagne de 1781 aux États-Unis a rendu possible la victoire décisive de Yorktown. Surcouf n'a pas seulement sa statue à Saint-Malo, mais sa voix dans la capitale. Il incarne un autre aspect spectaculaire de la guerre maritime, la guerre de course. Surcouf n'a jamais voulu intégrer la marine nationale, mais dans les rangs de celle-ci, on pouvait trouver des tempéraments de corsaires comme le sien. La Motte Piquet, l'avenue de la Motte Piquet, en une journée, eh ben, il a capturé 16 bateaux et demi.
Le choix de la course est un choix contraint, faute de pouvoir assurer un choc frontal.
Oui, mais enfin, la France a plus d'une fois pensé à envahir l'Angleterre, monsieur Duvic. Les services secrets de Versailles recommandait ce choix à Louis XVI en 1774. La prudence a commandé d'attendre l'alliance avec les Espagnols. En 1778, une flotte franco-espagnole s'est présentée face à Plymouth. Les vents mauvais et le scorbut l'ont éloigné de la Manche, c'est vrai. En 1803, Bonaparte a repris le projet en le mettant en scène de façon spectaculaire au camp de Boulogne. Et plus tard, il a préféré, c'est vrai, le suspendre dès avant Trafalgar.
Ah, Trafalgar, la mémoire des guerres maritimes franco-anglaises est marquée de nombreux désastres.
Oui, mais peut-être, mais transfiguré, monsieur Duvic. Prenons le cas d'Aboukir.
Oui.
1798, eh ben, Bonaparte s'est enfoncé à l'intérieur de l'Égypte. On ne s'inquiétait pas assez du devenir de l'escadre qu'il avait amené sur place. Les Anglais l'ont attaqué au mouillage dans la baie d'Aboukir. Ça a été une catastrophe. Eh ben, il reste d'Aboukir un autre souvenir. Celui de Dupetit-Thouar, une rue à Paris dans le 3e arrondissement. Sur son poste de commandement du Tonnant, il a été grièvement blessé. Il ordonne qu'on lui ampute un bras. Certains disent aussi les deux jambes. Sans doute exagère-t-il. En tout cas, il demande ensuite qu'on le place dans un tonneau rempli de son. Ainsi, l'hémorragie est-elle ralentie et il continue de donner des ordres. Le dernier sera clouer le pavillon tricolore, comme ça vous ne pourrez pas l'amener. Citation parfaitement exacte, comme toutes celles que nous faisons ici, Bruno.
Oui, presque garantie. Hier, j'ai confondu Montaigne et Pascal. Pour avoir les idées claires, je m'engage à réécouter en podcast ou sur le site de France Inter Un été avec Montaigne et Un été avec Pascal, qui nous ont été offerts ces dernières années par Antoine Compagnon. Merci Jean Lebrun.